Nous sommes assez étonnés. Nous voyons qu'en contrepartie d'une solution supposée de ces réfugiés, il a été envisagé de relancer les pourparlers pour l'entrée de la Turquie en Europe, de dispenser les ressortissants de la Turquie de l'obtention d'un visa, de donner à la Turquie 6 milliards d'euros, et puis l'inscription de la Turquie sur la liste des pays sûrs, ce qui fait qu'on ne donnera plus d'asile politique à des ressortissants de la Turquie, ce qui est tout de même assez problématique, notamment par rapport à la situation de l'importante minorité kurde, etc. Il nous semble qu'on met des choses extrêmement différentes. Enfin, je veux dire, la question des réfugiés doit être traitée pour elle-même et ne pas être mise sur une sorte de traité quasiment commercial dans lequel on met des choses assez différentes sur les deux plateaux de la balance. Je pense de surcroît que cet accord ne va pas être très efficace parce que les réfugiés ont montré dans leur détermination à venir vers l'Europe qu'ils vont trouver d'autres chemins. Ça va accentuer le nombre de réfugiés qui se lanceront dans la folle aventure de la traversée de la Méditerranée. C'est pas comme ça qu'on peut régler la question.
Plusieurs ONG ont dénoncé un accord de la honte, accusant l'Union européenne de troquer les migrants et la dignité des demandeurs d'asile. Vous avez le sentiment qu'avec cet accord, l'Europe renie ses valeurs fondatrices ?
Ben pour une part, parce que on veut renvoyer vers la Turquie les réfugiés qui viendront vers nous. Mais le problème, c'est qu'il faut faire un discernement, car il y a parmi ces réfugiés des gens qui ont vraiment besoin d'un asile politique. Et jusqu'à présent, l'Europe avait des traditions d'asile politique. Et nous craignons que ceux qui vraiment méritent un asile politique soient finalement considérés simplement comme des réfugiés sans titre, soient purement et simplement renvoyés en Turquie. Dans quelles conditions ? Dans quelles conditions les yézidis et les chrétiens vont se retrouver dans la Turquie ? Et dans quelles conditions de camp ? Dans quelles conditions d'hébergement ? Avec quelle sécurité juridique ? Oui, tout ça est quand même très inquiétant.
Cet accord, c'est un aveu de faiblesse, un constat d'impuissance des pays européens qui ne sont pas parvenus à s'entendre sur la crise migratoire et donc qui se sont tournés, qui ont négocié avec Ankara.
Je ne sais pas si c'est un aveu de faiblesse. C'est sûr qu'il n'y a pas tout à fait la même approche entre des pays qui ont une certaine puissance économique, des pays qui ne l'ont pas, des pays qui sont sortis il y a quelques années du joug communiste, d'autres qui ont une habitude de libéralisme, etc. Mais il eût fallu, me semble-t-il, traiter ça davantage au niveau des Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité et au niveau du Haut-Commissariat aux réfugiés. Je crois que déjà le fait que l'Europe se sente, d'une certaine manière, déjà coupable et seule responsable de la situation et devant donc supplier à la Turquie de bloquer les réfugiés me semble déjà une approche que je trouve extrêmement restrictive du problème. Et puis, nous demandons qu'il y ait un vrai plan plus intense de secours à l'Irak et à la Syrie pour que les gens n'aient pas à partir. Donc la vraie question, c'est que faisons-nous pour que ces gens aient d'autres ressources que de quitter leur pays. Ça suppose la paix en Syrie, ça suppose la neutralisation du Daesh et d'Al-Qaïda. Et si nous mettions les moyens voulus, ce serait déjà fait depuis longtemps.
Cet accord risque-t-il d'affaiblir l'Europe d'un point de vue politique ?
Je voudrais quand même faire remarquer que tous ces gens veulent aller en Europe, veulent rentrer en Europe. Donc avant d'être une marque de faiblesse pour l'Europe, ça veut dire que l'Europe attire. C'est-à-dire qu'on a quand même un modèle social que les gens souhaitent rejoindre. Après cela, oui, sur la situation des migrants, on a sans doute manqué de cohérence et manqué de clarté.
D'un point de vue juridique, que dire de cet accord ? Est-ce qu'il est conforme aux lois européennes ? La légitimité même des institutions européennes ne risque-t-elle pas d'être abîmée après cet accord ?
Je pense en effet que il y aura une mise en cause de la légalité de cet accord, oui, certainement, oui. Et puis aussi, je pense que sur le plan politique et diplomatique, il faut quand même se poser un certain nombre de questions sur l'évolution de la Turquie. On a bien vu qu'il y a un journal avec l'opposition qui a été envahie par les forces de police. On voit qu'il y a des attentats commis par certains Kurdes contre la Turquie, c'est inadmissible, mais qu'il y a aussi des violences faites par le pouvoir turc vis-à-vis des Kurdes. Par conséquent, il faut tout de même clarifier cela. Et tout le monde sait aussi que les rebelles, au départ, ont été soutenus par la Turquie. Par conséquent, la Turquie a bien une responsabilité importante dans l'évolution du conflit syrien.
L'Union européenne, quel est le message qu'elle envoie à toutes ces populations qui fuient la guerre et la violence ?
Eh bien, c'est sûr que le message est extrêmement équivoque, puisque d'une part, on ne prend pas suffisamment de moyens pour résoudre le problème dans le pays de départ. Donc il y a des carences, si vous voulez. Donc on ne règle pas les problèmes en amont. Et surtout, ne venez pas vous déranger et restez chez les Turcs. Évidemment, l'image de l'Europe en ressort abîmée. Ceci dit, les valeurs européennes sont quand même recherchées par ces gens qui veulent venir chez nous. Mais ils n'essayent pas d'aller en Russie. Hein. Ils ne vont pas chez M. Poutine, ils veulent aller dans l'Union européenne. Il y a quand même aussi des questions à se poser.